Le trésor de la caverne d'Arcueil, deuxième partie. Il y avait plusieurs années que maître Jean Anspar vivait ainsi de cette vie d'anachorète, quand tout à coup il disparut de sa retraite et du monde, sans éclat, sans bruit, ténébreusement, vaguement, comme autrefois il était de bon goût qu'après leurs lois promulguées disparussent les grands législateurs. Ce fut encore le bon et vigilant curé qui donna le premier l'éveil de cette absence. Ayant cogné plusieurs fois au guichet du luthérien sans obtenir de réponse, le soupçon lui vint naturellement que le vieillard pouvait bien être mort ou agonisant dans quelque coin de sa demeure et avoir grand besoin des secours de là, sinon de la sépulture. Aussitôt, sur son avis, les portes avaient été enfoncées et la foule, toujours avide d'émotion, s'était précipitée de tous côtés dans le repaire exécré et jusqu'alors impénétrable de l'avare. L'un croyait ouïr pleurer au fond du puits le vieillard hérétique, l'autre l'entendre jeter des plaintes dans les buissons ou dans les caves. Mais je vous laisse à penser quel dut être l'étonnement des hauts bonnets de l'endroit et de la multitude accourue pour assister à cette ouverture, quand, après une battue générale et la perquisition la plus exacte, on n'eut trouvé ni trace ni vestige de maître Jean, rien qui pût donner quelque indice sur son sort. Et ce qui ne causa pas une moindre surprise, ce fut l'état d'abandon qui régnait au-dedans comme au-dehors de la maison. Partout la nudité la plus absolue, ni meubles, ni objets de corps, ni ustensiles, ni instruments, rien qui rappelât qu'un être, fait à l'image de Dieu et des hommes, appartenant à une race anciennement civilisée, avait passé la plupart des années de sa vie. Comme on ne lui savait ni rente ni bien domaniaux, l'idée commune voulait que la richesse de maître Jean fût toute métallique. On s'était donc attendu, en conséquence, à marcher sur les joyaux et l'orfèvrerie, à trouver les planches et joncher le bijou de toutes sortes, à rencontrer des monceaux d'or dans chaque chambre, de toutes parts des coffres pleins d'argent, monnayés jusqu'à la gorge. Mais, sauf quelques liards, tournois, tout moisis, qui furent trouvés dans le fond d'une bougette, on ne découvrit pas un écu posthume chez notre Richard, pas seulement de quoi faire un honnête parolis au pharaon ou à la bassette. Alors on se rappela le séjour des ouvriers allemands au château, la quantité considérable de matériaux qu'on avait vu apporter à cette époque et que ces étrangers avaient dû employer nécessairement à quelque construction cachée, et l'on se mit à la recherche de cette construction. Il y avait à l'entrée du parc une assez vaste caverne, naturelle ou de la main des hommes, je ne sais, dans le genre de celle qu'on se plaît quelquefois à faire bâtir dans les jardins somptueux. Ce fut là, surtout, que se dirigèrent les plus minutieuses perquisitions. Persuadé que c'était par cette grotte qu'on devait pénétrer dans un appartement souterrain, on en fouilla le sol à plusieurs pieds en tous sens. On en sonda la voûte, on en dégrada les parois, on en déplaça plusieurs pierres énormes, mais sans être plus heureux dans ces nouvelles tentatives. Nul orifice ne s'entr'ouvrit, nul quartier de roche ne tourna subitement sur des gonds magiques, nulle cavité ne résonna sous les pics des travailleurs. Sur ces entrefaites, M. le prévôt du canton avait mis ses exempts en campagne et fait demander à Paris le neveu de maître Jean d'Anspach, espérant obtenir par son intermédiaire quelques lumières sur la disparition de son oncle, ou du moins quelques indications un peu plus certaines qui viendraient le diriger à coup sûr. Or, à l'auberge de la Croix de Lorraine, où avait toujours logé ce jeune homme depuis qu'il résidait à Paris, on était dans la plus grande inquiétude à son égard. On ne l'avait pas vu depuis environ 3 semaines. Ceci n'est guère fait pour éclairer la question. Après un mandat d'amener lancé contre le jeune étranger et quelques poursuites qui n'eurent également aucun résultat, la justice remporta son flambeau qu'elle se serait obstinée vainement à faire pénétrer dans ses ténèbres. Force fut donc à chacun de s'en tenir là de même, c'est-à-dire de se résigner à ne rien savoir. La coïncidence de la disparition du neveu et de l'oncle, toutefois, ne parvint pas à tarir les déductions et les conjectures. Cela ne se fit au contraire qu'ajouter un affluent de plus à la source des suppositions. Il fut décidé généralement que le jeune homme s'était enfui en Allemagne, après avoir fait main basse sur les richesses de son oncle, que dans une de ses dernières visites, il avait expédié et enterré sans doute dans quelque coin du jardin. Quant à nous, bonnes gens que nous sommes, ne nous hâtons pas de rien supposer et continuons. À la suite de ces événements, le château de Maître Jean d'Anspach tomba en déshérence et fut vendu au profit de l'État au bout de la prescription voulue par la coutume. Des mains du premier acquéreur, il passa successivement dans celles de plusieurs autres pendant le cours du siècle dernier, et le vieux thésauriseur allemand et l'enfouissement de son magot ne tardèrent pas à être oubliés par les nouveaux propriétaires et seigneurs. Mais sous le chaume ont la meilleure mémoire, et les richesses hyperboliques et la vie extraordinaire de Maître Jean l'Avare avaient frappé trop vivement l'esprit des villageois d'Arcueil pour qu'elles n'y laissassent pas des traces plus profondes. Et par tradition, les manants du lieu et le peuple de Paris, chez qui cette histoire s'était répandue, continuèrent à désigner la caverne du parc comme devant receler un trésor immense, caché là autrefois par une espèce de juif d'Allemagne, orfèvre usurier du roi, qui était si riche, disait-on, qu'il aurait pu combler un puits avec son or. Puis dans ces dernières années, lorsque les opérations occultes, les chercheurs d'esprit, les chercheurs de richesses souterraines devinrent, pour ainsi dire, à la mode, ce fut sur le territoire d'Arcueil, plus particulièrement, que, poussés par la renommée publique, se dirigèrent tous les regards, toutes les espérances, toutes les explorations. Ce curieux récit étant achevé et ses explications étant données, M. de Bonnerode disait à ses compagnons « C'est là, messieurs, l'histoire de Maître Jean d'Anspach et du trésor enfoui dans la caverne d'Arcueil, ainsi qu'elle m'a été contée par le bon prieur et par ses disciples, gens auxquels, pour mon malheur, un bien fâcheux hasard voulut que je me commisse, et tel en outre que je me rappelle l'avoir lu il y a quelques années, quand j'étais encore en liberté, dans un cahier manuscrit rédigé, disait-on, par M. de l'Estoil lui-même, qui avait été trouvé avec d'autres papiers au château de Silly-sur-Loire. Je ne pense pas, ajoutait-il, en avoir oublié ou altéré aucune circonstance importante, ou cela me surprendrait fort, car ce que j'ai appris même à la passade se grave d'ordinaire parfaitement dans mon esprit. » Ici, l'auditoire de notre prisonnier, qui avait prêté une grande attention au récit que nous venons d'entendre, le remerciait avec grâce de sa bonne histoire de Maître Jean d'Anspach et le priait, si ce n'était pas trop exigé de sa complaisance, de vouloir bien continuer la narration de ses propres malheurs, qui, tout en éveillant l'intérêt du cœur, avait le don de charmer l'esprit. Comment résister à tant de politesse, surtout quand on brûle de se rendre? Monsieur de Brederode, dans l'agréable embarras de l'orateur que la foule félicite, s'inclinait alors plein de contentement, puis il répondait avec vivacité « Vous le désirez, bon, je vais obéir. Je vais reprendre le fil de ce qui me touche d'une façon plus personnelle, ou du moins de ce qui me regarde plus particulièrement la horde de nécromanciens que je suivais en amateur. À l'époque fixée par le diable, ou plutôt par son compère, le moine, pour la livraison définitive du trésor, c'est-à-dire à la lune nouvelle, comme nous l'avons déjà dit plus haut, tous nos illuminés, avec cette louable ponctualité qui caractérise les gens qui ont mis des fonds dans une affaire et qui ont un grand désir de ne pas voir leur montagne accoucher d'une souris, se trouvèrent fidèlement au rendez-vous. Le programme, cette fois, avait été totalement changé. Ce n'était plus au cabaret de la grève qu'avait dû s'effectuer notre rassemblement, mais à minuit, hors des murs de la ville, à la porte Gibard ou d'Enfer, dans l'enclos abandonné d'une ancienne tuilerie, et à jeun. À jeun, oui, à jeun. Notre référent mystagogue l'avait voulu ainsi, attribuant à notre turbulence et à notre état d'ébriété le peu de succès de nos précédentes tentatives. Quant à moi, en ma qualité d'incrédule et de simple frère visiteur, trouvant que c'était bien assez de suivre le décalogue de l'Église et de faire vigile pour la Saint-André ou la Saint-Jean, je m'étais lesté l'estomac en tapis noir d'un flacon de Bourgogne, d'un bon plat de fèves et d'un quartier d'agneau. Après beaucoup de discours préparatoires, d'exhortations et de remontrances répandues chemin faisant par notre vénérable prieur, qui semblait renouveler le miracle de la multiplication, non pas des pains, mais des paroles, nous arrivâmes à notre mont circéen. Tout aux alentours était calme et paisible. Nous n'entendîmes ni les aboiements horribles des compagnons d'Ulysse changés en loups et secouant leurs chaînes dans les lucus sacrés, ni bruissement ni épouvante. La nature entière paraissait prêter à notre marche, insinuante et flexueuse, l'attention d'un entomologiste qui surveille les pérégrinations de quelques insectes. Le ciel, d'un bleu lazulique, tout moucheté et tacheté d'étoiles du zénith à l'horizon, avec l'écharpe blanche de la voie lactée suspendue à sa voûte, formait frise étoile de fond de la plus grande splendeur. De grandes masses d'arbres irrégulières et sombres, dans lesquelles quelquefois nous pénétrions, simulaient des coulisses naturelles bien profilées. Le rossignol chantait à la cantonade. Jamais, certes, action humaine, tragique ou sainte, n'avait eu un théâtre plus magnifique, un lieu de scène plus grandiose. Mais Dieu a dit au serpent, « Tu ramperas sur la terre, à l'homme tu travailleras, au ridicule tu te mêleras au sublime, c'est la loi. » Qu'étions-nous en effet? Quelques désœuvrés, quelques dupes allant grotesquement demander au sein de la terre le paiement d'une somme qu'elle ne nous devait pas. Au sein de la terre, à cet asile éternel et négatif, abîme de discrétion et de silence, la trahison d'un secret. Autant tu vas lui demander à maître Jean d'Alspar de délier le cordon de sa bourse. À 2 heures du matin, nous étions enfin rangés devant l'entrée de la caverne, tous dans le recueillement, tous un genou en terre, tandis que notre prieur, prosterné, répétait ces 3 paroles auxquelles il attachait sans doute un sens sacramentel. Rorate coeli de super. Suzanne, debout au milieu du groupe, dans une sorte d'état extatique, semblait la veuve de Béthulie chantant le cantique d'action de grâce sur la montagne. Elle était vraiment belle, cette jeune devineresse, avec sa stature ample et pittoresque, ses traits droits et fermes, ses yeux lumineux, son teint pâle, sa forêt de cheveux noirs ou les enturbants avec grâce et négligence autour de la tête et garnie en guise d'ornement de sequins d'or attachés parmi les tresses. Tous les ajustements, toutes les toilettes lui seyaient à ravir à cette fille d'Ève, cela est vrai. Elle était charmante, comme nous avons pu le remarquer dans toutes les phases du costume. Cependant, je ne pouvais m'empêcher de proclamer dans mon cœur que cette nuit, Suzanne se surpassait elle-même. On eût dit une de ces grandes créatures des anciennes races du monde, une courtisane de Babylone ou de Tyr, une prophétesse d'Hermopolis ou de Jephthé. Un beau justaucorps ou vertu gadin de soie à large raie, couleur d'orange et d'améthyste, faisant un jeu de lignes et se rencontrant sur les coutures en pointe de flèche, prenait étroitement le galbe de sa taille comme un damas tendu sur le fût délicat d'une colonne. De ce corsage collant et serré, tout garni de ganses d'or, s'échappait à grandes nappes, ainsi que les larmes d'eau d'une fontaine, une jupe de moire qui ondulait au reflet de la lune et descendait baignée, voilée mystérieusement, ses pieds si mignons chaussés d'une pantoufle orientale. Tout au bas de son beau col, qui se balançait comme un rameau gracieux, s'enroulaient plusieurs tours d'un collier de grosses perles. Ses perles brillantes paraissaient s'incruster dans le porphyre de ses épaules comme l'anneau de riche fusarole qui resserre dans son cercle élégant la campane et les feuilles d'acanthe d'un chapiteau corinthien. Dans ses mains, petites comme la fleur du lys, blanches comme le calice de l'azaléa, elle tenait une baguette divinatoire qu'elle courbait négligemment en arc de chasse. Ô Suzanne, jamais Amazone, jamais Pantacilée elle-même fit-elle fléchir plus élégamment sa cravache sur le flanc de son coursier. Jamais reine noire ou blanche d'Éthiopie ou de Tulée s'appuya-t-elle avec plus de séduction sur son sceptre. Que dis-je ? Sceptres ou royaumes des rois, vous n'êtes que vanité et misère. Il n'y a qu'un seul sceptre et qu'une seule loi, et c'est le sceptre et la loi de la beauté. Voilà l'oraison à Madame de Cythère, que je formulais avec enthousiasme pendant que notre gros prieur, avec sa manière gauche et pesante, continuait d'adresser ses patenôtres latines à je ne sais quel génie du paradis ou de l'enfer, et que ses adeptes, aux pieds de Suzanne, se morfondaient dans la plus humble componction. J'ignore ce qui m'avait monté ainsi, mais j'étais en ce moment d'une exaltation peu commune. J'aurais volontiers mis en charade, en action, l'apologue des trois larrons et l'âne renouvelé le rapte d'Hélène, et laissé là, plus ou moins déconfite, toute cette bande de pauvres d'esprit et de florins. Dans cette belle effervescence, l'œil fixé sur les lèvres couleur de rose de Suzanne, j'étais là, me disant, car rien ne transmue plus vite notre métal que la flamme de l'admiration, car rien ne tourne plus rapidement à la houlette et à la bergerie. Ah, que ne suis-je la guêpe agile au corselet mobile et zébré, j'irai suspendre mon alvéolé, cette bouche de corail. Que ne suis-je le petit roitelet joyeux qui recherche la demeure de l'homme? J'irai bâtir mon nid d'herbe odorante parmi les nattes épaisses de ses longs cheveux. Mais tout à coup, je remarquai un mouvement de surprise chez tous nos compagnons d'aventure et je crus entendre monsieur le prieur s'écrier avec effroi « Nous sommes cernés !» Je me retournai, et je vis en effet que nous étions enveloppés de tous côtés, non pas cette fois dans un cercle magique, mais dans un bon cordon de fantassins, mousquets sur l'épaule et sabres tirés. Cela, je l'avoue, coupa un peu court à mes élans poétiques, et je me mis à jurer comme un soldat aux gardes suisses, sans ménager plus habilement la transition. La chose, cependant, avait été bien faite. Il faut savoir, partout où il se trouve, s'empresser de reconnaître le vrai mérite, et jamais certainement M. l'abbé de Pure n'avait eu le plaisir de voir un coup de théâtre exécuté plus subtilement dans la fameuse salle des machines. Bravo, dis-je au prieur, voilà une bonne carbizade. Comment c'est-vous, mon père? Quant à moi, je trouve le coup délicieusement joué. Le pauvre homme était dans une transe affreuse. Le visage altéré, tremblant comme une feuille, il me répondit tristement, voulant faire sans doute allusion à la trahison de l'apôtre Judas. Quelqu'un de nous, monsieur, achètera le champ du potier? Sur ces entrefaites, la haie de gens armés qui nous entouraient s'ouvrit et se sépara respectueusement pour laisser passer quelques estafiers d'assez mauvaise mine, sauf le personnage qui marchait en tête, vêtu d'une riche casaque et orné d'une épée de parade. Celui-ci avait vraiment l'air d'un fort galant cavalier. « Au nom du roi, messieurs, nous dit-il, ôtant son grand chapeau, garni de plumes, je vous arrête. » C'était le lieutenant général de police, M. le comte Voyer d'Argenson. Plusieurs d'entre nous le reconnurent aussitôt, mais nous n'en restâmes que plus consternés et plus muets. Il poursuivit. Comment, messieurs, malgré tout le déplaisir que le roi a manifesté ressentir de toute pratique et opérations occultes et démoniaques, nonobstant ces inhibitions jussieuses et défenses, et l'ordre donné itérativement à tous les parlements et à la chambre de justice de l'arsenal de rechercher et punir avec rigueur tous les fauteurs de prétendue magie, vous venez, et à plusieurs reprises, vous livrez imprudemment aux actes les plus afflictifs et les plus coupables. Cela n'est pas bien. Puis, s'adressant à chacun de nous, il nous interpella tour à tour, avec assurance, usant de tous nos noms et titres, comme si nous avions été pour lui de vieilles connaissances. Bon, ces gens de police sont merveilleux pour cela. Âmes qui vivent n'échappent à leurs herbes. Tout est couché, je crois, sur le registre, comme sur le livre du destin. Se tournant d'abord vers notre moine, qui avait bien la contenance la plus créative et l'expression de visage la plus étonnée, « Vous, surtout, monsieur le prieur de Bacheville, vous me permettrez, dit-il avec douceur et politesse, de vous exprimer personnellement tout mon chagrin. Il me fâche qu'au mépris de votre saint sacrataire, vous, homme de religion et d'église, qui devez à tous la vraie lumière et l'exemple, vous vous laissiez aller à mettre ainsi tout le premier et la première d'achoppement devant les pas de l'aveugle. Tant pis, mais le roi s'est fort emporté contre vous. » Passant ensuite au père Lebègue, organiste du roi et de la paroisse royale de Saint-Roch, il reprit. « Vous conviendrez au moins, vous, monsieur Lebègue, dont j'honore d'ailleurs le bon esprit et le talent, que le roi est souvent fort mal obéi par ses officiers, par cela même qu'il a comblé le plus de ses grâces. Croyez-moi, vous avez un art entre les mains qui vaut mieux que toute la science philosophale. » Vint ensuite le tour du vieux chevalier de Bois Duval, d'un nommé Hans Wilhelm Boscus, canonnier de l'évêque de Münster, d'un luthier de Paris, d'un riche apothicaire de Hurpois, d'un comédien de la troupe du sieur Molière et de quelques autres encore qui reçurent, chacun pour sa part, un petit coup de férule fort bien appliqué sur les ongles. Monsieur le lieutenant général possédait si bien le signalement de tous nos compagnons qu'il allait de l'un à l'autre dans les groupes, désignant le prévenu d'une façon fort belle et directe. Cependant, j'espérais échapper, par un privilège particulier, à cette revue assez incommode, et je me blottissais de mon mieux pour cela derrière les épaules de notre immense canonnier du Palatinat, quand M. d'Argenson, s'approchant de moi et me saluant d'un air plus sévère que flatteur, dont je l'aurais bien dispensé, me dit à haute voix, J'aurais été surpris, monsieur de Brederode, si les Pays-Bas n'avaient pas été représentés dans cette affaire. Eux qui ne manquent jamais de fournir leur contingent dans tout ce qui peut être désagréable au roi. Oh, je ne suis ici, monseigneur, ni le représentant de ma nation, ni le représentant de mes goûts personnels, lui répondis-je vivement. Ne voyez en moi qu'un simple bailleur aux corneilles, un homme de la suite, un amateur. Mais il ne m'entendit pas, sans doute. Il venait d'être frappé, ébloui, par l'apparition de Suzanne, qui sortait de la caverne où, à l'arrivée de la force armée, elle s'était retirée précipitamment. Par le ciel, oh, il y avait bien de quoi faire tourner la cervelle à tous les magistrats de France. Le trouble de la pauvre enfant, le désordre répandu dans sa personne, ne faisaient qu'ajouter plus encore au prestige naturel de ses charmes. C'était décidément l'air inspiré et l'allure majestueuse d'une sibylle. Ma foi, le gentilhomme, si Virgile lui-même ne l'eût prise pour Didon, et monsieur l'abbé de Fénelon pour Calypso. Il vous eût fallu voir, monsieur le lieutenant général, avec une flèche en sautoir dans le cœur, s'incliner et se reculer aussitôt pour faire la fameuse révérence en trois temps du bourgeois gentilhomme, tout en s'efforçant, comme un vieux chat, de cacher ses griffes dans le velours. Il lui dit « Vous m'avez parlé de vous dans les termes les plus flatteurs, mademoiselle de la Filandière. Il paraîtrait que Suzanne s'appelait ainsi. Je vous l'ai déjà fait remarquer, ces gens de police savent tout. Mais la vérité surpasse toute prévision. Vous êtes de Bordeaux, n'est-ce pas, ou du moins des Landes, près de Bordeaux. Les femmes de chez vous sont bien belles. Je regrette qu'avec tant d'éminentes qualités pour éveiller en votre faveur une honorable intérêt, vous vous adonniez à des menées fâcheuses, à des entreprises de charlatanerie. Mais vous êtes jeune, et l'on en a sauvé qui avait vieilli plus que vous, dans l'abîme. Je ne sache pas, monsieur, répondit Suzanne, qu'il puisse y avoir si grand mal à réclamer à la terre des biens qui lui ont été confiés par la peur ou par la folie, et qui pourraient être pour les vivants d'un véritable profit. Puis elle ajouta avec un demi-sourire, si le roi trouve cela condamnable, c'est que madame de Maintenon l'ennuie et qu'il a l'esprit mal fait. Monsieur d'Argenson parut d'abord assez émerveillé de cette théorie un peu sauvage. Il reçut cependant la boutade avec courtoisie, se contentant d'appliquer deux doigts fort doucement sur les lèvres ravissantes de la belle nécromancienne, pour lui faire sentir qu'il était bien, même quand on était jolie fille, de parler du roi avec un petit peu plus de respect. Il paraîtrait que les précédentes visites que nous étions venus faire à Arcueil et que nous tenions pour très ignorées étaient parfaitement connues comme tout ce qu'on tient pour très secret. Le bruit s'en était répandu dans la ville. La Gazette de la semaine en avait parlé. Le rédacteur s'y exprimait même d'une façon assez défavorable pour notre prieur. Il donnait à entendre, ce que certainement je ne consentirais jamais à croire, que celui-ci tirait de l'argent des personnes riches et crédules sous prétexte de les faire subvenir aux frais matériels de ses opérations et de les associer à de futurs bénéfices. Si cela était, je n'eus pas l'occasion de vérifier par moi-même. Le bonhomme me connaissait pour un panier percé. D'ailleurs, j'étais un néophyte d'une foi trop tardive et trop chancelante. J'ai toujours fait peu de cas de ce propos. Je sais que les gazettes ne vivent que de perfidie et de sarcasme. Elles trouveraient du venin dans le bec rose d'une colombe. Le roi avait lu l'article. Toute la cour en avait causé un soir qu'il y avait apparemment M. de Beauvilliers surtout, M. de Cavoie et M. Dumaine, Et là-dessus, un ordre bien exprès avait été intimé à monsieur le lieutenant-général pour qu'il eût à faire cesser le scandale sur le champ. Il n'y avait donc ni apôtre infidèle, ni traître, ni faux frère, comme notre prieur se montrait disposé à le croire. Nous sommes ainsi faits. Nous aimons mieux nous en prendre la méchanceté accréditée des hommes qu'au cours naturel des événements. Pendant que, tout rempli de son admiration pour Suzanne, monsieur le comte d'Argenson s'était livré à de brillantes attitudes, il avait fait à la dérobée un geste d'intelligence aux hommes à mine ténébreuse qui l'entouraient. Et ceux-ci, poussant aussitôt le ressort de petites lanternes sourdes qu'ils tenaient cachées sous leur manteau, et qui tout d'un coup répandirent autour d'eux une vive lumière, étaient entrés cauteleusement dans la caverne. C'est à quoi le signe de monsieur le lieutenant avait paru les inviter. Après y avoir fait une quête brillante en vrai limier de police, ils ne tardèrent pas à ressortir d'un air de triomphe, apportant une foule d'objets qu'ils déposèrent aux pieds de monsieur le lieutenant. Des instruments d'optique et de fantasmagorie, des baguettes de coudrier, des torches, des parchemins, des porte-voix. Au milieu d'eux était un homme qui se débattait comme un démon et dont le costume rappelait celui qu'on donne au diable à la comédie. Son visage était couvert d'un masque noirci et sur son front étaient plantées deux cornes postiches. À cette vue, mes compagnons prirent l'épouvante. Pour moi, je fus ravi de voir le diable entre deux alguazils, et je me réjouissais fort que celui qui se plaît si souvent à nous faire de mauvais partis fût dans de mauvaises affaires au moins une fois dans sa vie. Mais monsieur le lieutenant général, qui était un esprit fort, croyant peu sans doute à la réalité des génies subalternes, ne me laissa pas longtemps à cette douce satisfaction. Il s'approcha gaiement du fantôme et d'une main hardie et profane, il lui arracha ses cornes et son masque. Quel fut notre étonnement quand, dépouillés de ses insignes, nous reconnûmes que ce prince des ténèbres était tout bonnement François, le domestique de notre révérend prieur. J'avoue que cette mascarade et tous les instruments d'optique et de catoptrique, lanternes, miroirs, télescopes, fantasmacopes et une foule d'autres objets d'un usage plus ou moins inconnu, firent coïncider un instant mon sentiment avec celui du journaliste dont nous parlions tout à l'heure et qui donnait assidieusement à entendre dans sa gazette que le bon moine, notre initiateur, usait de supercherie avec ses adeptes. Mais je chassai bien vite cette vilaine pensée. Je rougis d'avoir pu ternir en moi-même d'un soupçon si injuste la pureté d'intention d'un homme si honnête. Que voulez-vous? Notre âme ne peut être responsable des mauvaises cogitations qui la surprennent et la traversent. Elle n'a pas plus que le lys la faculté de refermer son calice, si blanc qu'il puisse être et si pur, à l'approche des frelons ou des guêpes, et les frelons de notre âme, ce sont les mauvaises pensées. Tout à coup, des cris perçants se firent entendre du côté du parc. Oh, il ne manquait plus que cela pour nous faire tomber en syncope. Nous sautions d'évanouissement en évanouissement, de surprise en surprise. C'était vraiment à devenir fou, à perdre la tête dans ce conflit de catastrophes. Cependant, monsieur d'Argenson, qui était un vieux pilote à cheval sur les quatre vents, ne se troubla pas pour si peu. Avec son calme et son flegme ordinaire, comme s'il eût eu les oreilles bouchées, il ordonna à ses archers de rassembler les pièces de conviction et de nous conduire au lieu de sûreté dans un appartement du château où nous demeurerions sous bonne garde. Ensuite, il recommanda tout spécialement de mettre dans un salon convenable et à part Mademoiselle Suzanne et d'avoir pour elle les plus grands égards. Décidément, la lyre d'Orphée avait remué la pierre qui doit tenir lieu de cœur chez un magistrat. Cette attention délicate ne suffit point au besoin d'être amoureux et tendre qu'éprouvait monsieur le lieutenant général. Tout à l'heure, je serai près de vous, mademoiselle, « Allez sans crainte, lui dit-il, en lui touchant affectueusement la main. » Tandis qu'on nous expédiait deux à deux vers notre prison provisoire, M. d'Argenson et quelques-uns de ses commis intimes se dirigèrent du côté où le bruit se faisait dans le parc, guidés qu'ils étaient par les cris qui retentissaient toujours aussi aigus. Ils s'enfoncèrent dans une espèce d'allée inextricable, barrée par des tiges et des branches, et pénétrèrent à travers les rameaux entrelacés et les souches tortueuses et bifurquées dans un massif d'arbres et d'arbrisseaux, serrés et compacts comme le tissu d'une charmille. Au milieu de ce fourré, il y avait une petite place, occupée seulement par de hautes herbes touffues et quelques plantes grimpantes, des houblons et des lierres. Sous ces herbes, ils aperçurent un peu de terre fraîchement remuée et un trou qui semblait nouvellement formé par un éboulement. C'était du fond de ce trou que s'échappait, comme s'élance du sein du Vésuve, le soufre et la lave en feu, les clameurs qui remplissaient de leur tumulte le calme profond de la nuit et des bois. « Sans Dieu !» dit M. d'Argenson. « Il y a quelqu'un par ici qui, mille bombes, n'a pas fait vœu de silence chez M. l'abbé de Rancé. »« C'est vrai, monsieur le comte, et qui non plus n'a pas trouvé la paix dans le sein de la terre, cet asile du repos, » ajouta un des serviteurs de M. le lieutenant général, tout en se penchant sur le précipice et plongeant sa lanterne sourde dans l'ouverture. À la clarté que répandait la lanterne, il fut aisé de distinguer, sous la terre éboulée, des degrés de pierre formant une descente assez semblable aux escaliers qui donnent accès aux caves dans nos maisons. Que ce soit l'échelle qui mène au moulin du diable ou tout autre traquenard menant dans tout autre mauvais lieu, bof, je me risque, dit le même homme de police. Et il se mit de son mieux à glisser dans le cratère et à descendre courageusement dans le ravin. Allez, allez, je vous suis, reprit M. d'Argenson. Mais prenons garde de renouveler l'histoire un peu surannée dans Pédocle. Après avoir dévalé en tâtonnant et avec beaucoup de précautions une vingtaine de marches encombrées par la terre éboulée, ils se trouvèrent enfin sur un palier, ou plutôt sur le sol d'une petite chambre souterraine, au milieu de laquelle était un objet énorme et noirâtre, qui, criant et gémissant, agitait de tous côtés ses membres et faisait d'inutiles efforts pour se relever comme un hanneton qu'un écolier a mis sur le dos. Nos hardis aventuriers s'approchèrent de cette masse informe et sinistre avec un redoublement de prudence, comme autrefois les Troyens s'approchèrent du fameux cheval. Ils explorèrent d'abord les parties les plus extrêmes, et découvrirent, premièrement, une main et un soulier, puis un genou et un coude, puis l'autre jambe et l'autre bras, venant tous quatre se souder à un gigantesque abdomen, lequel se terminait par une large face humaine que défigurait une affreuse expression. C'était la large face de notre révérend prieur. Monsieur le comte d'Argenson le reconnut aussitôt, mais plutôt à sa corpulence qu'à ses traits. « Que diable faites-vous ici, monsieur de Bacheville, et dans une pareille posture ? » dit-il amicalement. « Hélas, monsieur le lieutenant, j'ai failli me rompre les os et perdre la vie. J'ignore où je suis. » Tout ce que je sais, c'est que la terre a craqué sous moi et que j'ai roulé longtemps comme un esclave dans un jeu de paume. Oh, plus de peur que de mal, cela ne sera rien, mon révérend. Alors, mes amis, remettez monsieur sur ses pieds. Aisé à dire, mais coûteux à faire, repartit, se bordant les lèvres pour ne pas rire, l'agent qui le premier avait mis le pied dans l'abîme. Et alors, quatre des plus robustes exempts se saisirent de notre saint homme, et le hissant comme un cric fait d'un fardeau, ils le mirent sur ses pieds, tant bien que mal. Cette entreprise accomplie, ces bonnes gens auraient pu dire à l'instar d'Horace « Exegimus monumentum », nous avons érigé un monument. Mais ils se contentèrent, sur l'injonction de M. le lieutenant, d'entraîner le pauvre moine hors de ce fâcheux réceptacle et de le conduire au château auprès de ses disciples, c'est-à-dire auprès de nous, dans l'appartement où nous étions enfermés. Revenus de notre premier effroi, nous n'avions pas tardé à nous apercevoir dans notre prison que le prieur nous manquait. Dans le parc de guerre où l'ennemi les a conduits, après la déroute, le premier soin des vaincus est de se reconnaître, de se compter. Quand le loup rôde, le pâtre aussi compte ses brebis. Mais ici, les brebis en étaient réduites à se compter elles-mêmes, leur chef du troupeau étant perdu. Le bon moine était l'âme de l'entreprise et l'âme de la plupart de ceux qui en suivraient l'exécution. Aussi la remarque de cette absence vint-elle ajouter de nouvelles alarmes et jeter un grand découragement dans la compagnie. Comment se faisait-il qu'il ne fût point parmi nous? En sa qualité de coryphée, avait-il supporté tout le poids de la colère de monsieur le lieutenant? Par respect pour son caractère et ses dignités, l'avait-on mis soigneusement à part, comme on avait fait de Suzanne, par égard pour son sexe et pour sa beauté? Chacun, selon sa fantaisie, une explication plus ou moins étrange, plus ou moins admissible de cette disparition. Ceux qu'une foi sincère attachait aux prières et qui brûlaient pour lui et pour la science occulte d'un zèle outré, ne voulaient voir dans ce fait que le résultat d'une faculté commune à tous les adeptes, celle de s'évaporer dans les ténèbres. D'impossibilité en impossibilité, ces fervents disciples en étaient arrivés aux choses plus merveilleuses en l'honneur de leur maître. Déjà, quelques-uns parlaient vaguement d'apothéose, de transfiguration. Ils l'avaient vu tout à coup, au milieu du trouble général, du moins il leur avait semblé le voir, s'il n'avait point été le jouet d'une illusion, quitter légèrement la terre, s'effacer, s'amoindrir, devenir pure essence et gagner rapidement les régions du ciel. Les choses étaient parvenues à ce degré d'exaltation, et il demeurait à peu près inconvenu que notre révérend prieur, réduit à l'état d'un être complètement métaphysique, se promenait dans les étoiles pour échapper aux poursuites de monsieur le lieutenant de police, quand, bien malencontreusement, cette admirable métamorphose, qui rappelait si ingénieusement la transformation de Daphné, la transsubstantiation de la perruque de Chapelain, reçut un bien furieux démenti. La porte de l'appartement où l'on nous tenait en geôle s'était subitement ouverte, et la masse pesante de monsieur de Bacheville, plus terrestre et plus matériel que jamais, avait été poussé au milieu de nous par les quatre hommes de police qui venaient d'opérer l'extraction du pauvre astrologue. À cette réapparition si parfaitement improvisée, l'étonnement, comme on le pense bien, fut assez général. Mais le prestige qui l'accompagna, je dois l'avouer, fut d'un effet assez médiocre. Au désordre de sa mine et de sa parole, l'infortuné prieur joignait le désordre de ses habits, et nos illuminés en eurent fort à rabattre quand le bonhomme, pressé par leurs questions, en vint à leur raconter comment, en s'esquivant de la foule et cherchant une retraite dans le parc, il était tombé prosaïquement dans un trou. Mais, tandis que le bon monsieur de Bacheville nous régalait ainsi fort en détail de toutes les menues circonstances de son accident, ce qui vint très à propos à me recréer, car je commençais à m'enfoncer dans une grande mélancolie et à regretter vivement dans mon cœur de m'être mêlé aux sottises de ces petites gens, monsieur le lieutenant général de police poursuivait de son côté ses investigations dans le caveau du parc. Laissons donc notre brave moine compter, raconter et recompter encore par le menu l'histoire, les épisodes peu nombreux et peu variés de sa chute, que nous pouvons nous flatter de connaître déjà très suffisamment. Lorsque M. le comte d'Argenson se fut, ainsi que nous l'avons vu, débarrassé du prieur, maître paisible de la place, il se prit à considérer attentivement le lieu où il se trouvait. C'était une espèce de petite chambre, ayant deux toits au plus en tous sens, bâtie tout en pierre, fort propre et fort bien assemblée. De très grandes et très belles dalles de liais, ajustées avec symétrie, recouvraient le sol. Une frise basse régnait tout autour des murailles, et la voûte en berceau surbaissé, appareillée à l'allemande par une main très habile, posait sur une architrave d'un dessin très simple, mais de bon goût. M. d'Argenson commençait à se demander d'où pouvait provenir cette construction souterraine, à quel usage elle avait pu être destinée. Et comme il était, à ce qu'il paraît, de l'école historique qu'il voulait, je ne sais sous quel vain prétexte que sa Bonisis d'autrefois eût quitté son beau pays d'Orient pour venir se faire adorer dans la banlieue de Lutèce, il cherchait déjà à reconnaître dans cette maçonnerie toute fraîche et toute moderne si ce n'était pas quelque antique substruction, quelque reste d'un temple jadis élevé sur cet emplacement en l'honneur de la susdite déesse, quand tout à coup il aperçut au niveau du sol, tout à fleur des dalles, dans un angle du caveau, du côté opposé au degré que notre cher prieur avait redescendu d'une façon si périlleuse, une ouverture ou orifice à peu près semblable à l'embouchure d'un puits et de même diamètre. Sa surprise fut grande, sa surprise archéologique, veux-je dire, et passant à de nouvelles inductions, il se mit à examiner ce que pouvait être cette solution de continuité dans le sol et quel pouvait en être le but et le sens. Il vit alors, au-dessous de lui, dans la profondeur de cette espèce de cylindre, une suite de degrés de pierre, se superposant, s'attachant à un limon commun, et formant ce qu'on appelle vulgairement un escalier en spirale, une vis d'Archimède, comme il s'en trouve encore dans de vieux édifices gothiques, dans l'intérieur des clochers et des tours. Le serviteur de M. le lieutenant général, qui tout d'abord, lanterne en main, s'était risqué à pénétrer dans ce repère par le chemin peu sûr que venait de frayer si pittoresquement M. de Bacheville, ce serviteur, dis-je, fut encore le premier qui osa s'aventurer dans ce nouveau défilé si étroit qu'un homme y pouvait passer à peine. M. d'Argenson n'était pas non plus fort craintif de son naturel, et d'un pied léger, il se prit à descendre aussitôt, marche à marche, sur les talons de son valet. Rien n'est plus contagieux que la peur ou le courage. Après plusieurs évolutions que faisait l'escalier autour de son noyau de pierre, ils se trouvèrent au bas des degrés, dans un caveau à peu près semblable à celui qu'ils venaient d'explorer au-dessus. Seulement les parois en étaient polies comme le marbre, et les assises taillées en biseau à la manière florentine, et rangées avec l'art particulier qui se remarque aux façades des palais toscans. À la voûte en arête d'une coupe légère et ornée de nervures sur ses bords, était suspendu un vieux candélabre. Les pierres de la surface portaient encore les traces de la fumée qu'avait dû jeter une flamme vacillante, éteinte déjà depuis plus d'un siècle, après avoir éclairé trop longtemps à regret et de sa lueur confidente les accès de la plus immonde passion humaine, de l'amour de l'or. Après avoir assisté, agonisante elle-même, à une scène d'horreur et de désespoir, M. d'Argenson donna une faible attention à toutes ces choses. Un passage étroit, ouvert devant lui dans l'épaisseur de l'un des murs du caveau et formé par une grille de fer, avait attiré tous ses regards. Au-delà de cette deuxième salle, Il y avait donc encore quelques chambres dans laquelle devait conduire ce passage et cette porte. Et là-dedans et au-delà, qui avait-il? Une succession infinie de repères se pénétrant l'un l'autre et s'éternuant au loin dans les ténèbres, comme ces galeries naturelles où souvent le visiteur égaré trouve une fin solitaire et horrible. Allaient-elles se dérober et s'enfuir devant leurs pas jusque dans les abîmes de la terre? Il frémit, il hésita. Enfin, surmontant ce premier mouvement de terreur indépendant de lui-même, il s'approcha, avec la bravoure apparente qui convient à un magistrat, du côté où l'issue mystérieuse était pratiquée dans le flanc de la muraille. Cette baie de pierre ressemblait assez au soupirail d'un immense fourneau. Monsieur le lieutenant marcha jusqu'au fond de l'embrasure, si étranglé qu'il pouvait à peine s'y maintenir, et lorsqu'il fut nez à nez avec la grille de fer qui fermait l'ouverture, il essaya de la pousser devant lui, mais l'obstacle ne céda pas. Derrière la grille, l'obscurité était si profonde que l'œil n'y pouvait reconnaître ni dimension ni forme. Monsieur d'Argenson y fit pénétrer à travers deux barreaux la lanterne sourde qui le guidait, et promenant çà et là cette lumière pâle et glissante, il parvint à distinguer peu à peu, dans une espèce de cellule toute bâtie en pierre comme les caveaux précédents, divers coffres ou meubles longs des murailles. Sur les dalles et non loin de la grille, deux masses assez informes et noirâtres gisaient à peu de distance l'une de l'autre. On aurait dit deux cadavres étendus sur le carreau. Attachant longtemps, fixement son regard sur ces apparences bizarres, dont les contours indécis s'effaçaient dans une ombre opaque pour tâcher d'y démêler quelques silhouettes moins incertaines, quelque indication plus précise qui pût l'aider à débrouiller le vague, l'ambiguïté de ces étranges objets, M. le comte d'Argenson finit par reconnaître d'une façon qui ne permettait plus le doute que c'était bien là deux figures dans l'immobilité de la mort, deux corps humains jetés là sur le sol comme des squelettes arrachés à leur cercueil et foulés aux pieds un jour de colère et de profanation. En même temps que cette certitude se fit jour d'une façon prompte et rapide dans son esprit, l'effroi se glissa dans son âme. Le froid de la peur courut dans ses chairs et glaça le sang dans ses veines. Sa lampe sourde lui échappa des mains, tomba sur les dalles et s'éteignit. Et il se retira en marchant à reculons, avec une expression étrange jusqu'au milieu de ses hommes, qui était resté derrière lui dans le caveau, comme si les deux cadavres s'étaient dressés soudain sur leurs ossements et lui avaient parlé d'une voix sinistre. Mais le bel usage et les mœurs élégantes ne souffrent pas les manifestations naturelles, la naïveté dans les sensations. Monsieur le lieutenant général réprima aussitôt le trouble involontaire qui s'était emparé de sa personne, trouble indigne d'un homme de bon goût, et reprenant son air habituel, bon, « je le sais, dit-il, si j'ai été la dupe de quelques visions, mais il m'a semblé voir là-dedans deux espèces de fantômes, oui, deux fantômes, deux spectres, étalés dans le fond de cette cage, comme deux tourtereaux couchés sur le sable d'une volière. Tenez, voyez-vous-même, messieurs, prenez un flambeau. » La grille était fermée par une serrure d'un mécanisme fort compliqué et fort étrange. Ce fut en vain qu'on chercha à en comprendre le secret et la combinaison. Impossible de mettre le doigt sur le ressort mystérieux qui devait faire tourner la porte sur ses gonds. Il fallut briser la gâche et le pêne à coups de hache. L'œil exercé et pénétrant de M. d'Argenson ne s'était point mépris dans l'ombre. Il avait parfaitement distingué tout ce que contenait la cellule. Il y avait en effet, comme il avait cru le voir, plusieurs coffres et plusieurs barils rangés à la suite l'un de l'autre le long des murs, et plus au milieu de la pièce deux espèces de spectres étendus sur les dalles. L'un des deux corps, enveloppé dans un grand manteau de laine ramassé autour des flancs par une corde, semblait avoir été surpris par la mort dans une misère profonde. Point de linge sur la peau, et pour chaussures, des lopins de cuir déchirés et troués, maintenus par des débris d'étoffe et des ficelles. Contrefaçon hideuse des sandales d'un pauvre frère mendiant. Une forêt de longs cheveux blancs en désordre et une grande barbe blanche, qui des yeux lui descendait jusque sur la poitrine, laissait à peine à découvert quelques places d'un visage d'une maigreur extrême. Le front était plissé, des rides tortueuses rayaient dans tous les sens ses joues creuses et livides. L'œil, affaissé dans son arcade, avait disparu sous le poids d'une paupière close et aplatie. La bouche, encore entr'ouverte, paraissait avoir été tordue dans un dernier grincement convulsif. Toute la face avait une expression horrible de stupidité et de douleur. Les bras, cruellement décharnés, les poings fermés et crispés avec force, portaient l'empreinte de nombreuses morsures faites à belles dents. Plusieurs places étaient déchirées et mises à vif, comme si elles eussent été broyées longtemps et avec force. Tout semblait indiquer que ce vieillard avait dû expirer dans les tortures de la faim et de la rage. L'autre corps était celui d'un tout jeune homme. Le front appuyé sur ses mains en croix, la face tournée contre terre, il était prosterné dans toute sa longueur, à quelques pas plus loin que le vieillard, comme ces grandes figures en prostration que les artisans qui travaillaient la pierre cisèlent quelquefois sur le couvercle des tombeaux pour représenter la morne image du désespoir. Il était tout vêtu de cramoisi, haut de chausse et pourpoint, d'une étoffe riche et soyeuse, une manière de velours. La casaque, qui était jetée à grands plis sur ses épaules, était d'une forme agréable et élégante, mais d'une coupe fort ancienne, et telle comporte encore aujourd'hui certains personnages de théâtre. Il avait autour du cou une fraise brodée fort ample et fort belle, et des dentelles fines au poignet. En un mot, cet enfant, à en juger par la recherche de sa mise et le bon goût de ses vêtements, avait dû être, dans le temps où il avait été si cruellement surpris par la mort, un garçon fort distingué et fort à la mode. Son visage était rave mais blanc. Une barbe blonde et naissante encadrait ses lèvres et dessinait le contour gracieux de son menton. Ses traits étaient fins et mignons, ses mains petites et délicates. Il y avait sur son front et dans toute sa physionomie inanimée et décolorée l'expression d'un calme et d'une candeur ineffable. On eût dit qu'il avait quitté la vie sans regret, sans effort, sans résignation. Il montrait au plus 20 ans. Il faut croire que ces chambres souterraines étaient d'une construction bien saine et bien salubre, et que la dépouille mortelle de cet enfant, comme celle du vieillard, s'était trouvée dans un milieu bien exempt de toute humidité ambiante et de tout principe dissolvant, car elles étaient l'une et l'autre dans un état de parfaite conservation, ou plutôt de parfaite dessiccation, comme si elles eussent été soigneusement embaumées dans un cercueil. La peau sèche et adhérente aux articulations avait pris la dureté, la sonorité du parchemin, et le sang et la chair s'étaient réduits et volatilisés à ce point qu'ils avaient perdu toute pesanteur. Tels se conservent, dit-on quelquefois, dans le désert, les corps des voyageurs engloutis par des tourbillons de sable. Peindre l'étonnement de M. le lieutenant de police et l'ébahissement de ses commis devant une aussi étrange rencontre ne serait pas chose facile. Et ce qui surtout me serait impossible, ce serait de les suivre dans la foule d'imagination et de suppositions que fit naître dans leur esprit la vue de ces deux grands corps formant entre eux un si curieux contraste, l'un tout jeune, l'autre dans les dernières limites de la vieillesse, l'un couvert de toutes les apparences de la misère la plus dégoûtante, l'autre dans la livrée du luxe et les soins de l'élégance. l'un avec un masque hideux, image du vice et de la rage, l'autre avec une belle tête blonde, résignée et douce, comme celle d'un enfant dans le sommeil. Mais comment ces deux infortunés avaient-ils trouvé la mort dans ce cachot? Depuis quand étaient-ils là? Qui pouvaient-ils être? Voilà quelques-unes des mille et une questions que naturellement s'adressaient nos perquisiteurs, tout en se livrant à un bien triste examen, tout en considérant ces pauvres victimes, dont la fin avait dû être si cruelle, qui avaient dû succomber après une lente et affreuse agonie. Quant à nous, qui sommes préalablement beaucoup mieux informés que ne l'étaient alors tous ces hommes de police, il est plus que vraisemblable que nous avons reconnu depuis longtemps dans les deux spectres du caveau Maître Jean d'Anspach et son neveu Adolphus.